6h sur Europe 1.
Et des autotests Covid à faire en cours d'SVT avec son professeur, c'est une information Europe 1. Le gouvernement a commandé plus de 52 millions d'autotests pour les élèves et les enseignants. Emmanuel Macron se rend sur le chantier de Notre-Dame de Paris ce matin, 2 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Joe Biden sonne la fin de la plus longue guerre de l'Amérique en annonçant le retrait des troupes d'Afghanistan d'ici le 11 septembre. Et puis Bernard Madoff, l'escroc du siècle, est mort derrière les barreaux à 82 ans. Ses victimes n'ont pas toutes été dédommagées.
À suivre la page des sports et mon invité inattendu qui sera un agriculteur inattendu. Il a sa manière bien à lui de garder le sourire dans les difficultés du moment. Vous verrez, il a plusieurs vies, il est avec nous dans un quart d'heure. Bon réveil, bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence avec cette information qu'Europe 1 vous révèle. Ce matin, le ministère de l'Éducation nationale a commandé plus de 52 millions d'autotests à destination des établissements scolaires pour les professeurs et les élèves. Maintenant, Virginie Riva, il s'agit de s'organiser pour être prêt dès la rentrée.
Oui, le ministère a bien commandé 52,5 millions d'autotests pour les lycéens et les personnels de l'éducation nationale pour un coût total de 245 millions d'euros. L'idée, c'est maintenant de savoir comment les déployer. Première hypothèse sur la table, réaliser les autotests en classe, pourquoi pas durant les cours de SVT, avec une première partie théorique d'explication des consignes, puis une deuxième, pratique. Chaque élève à sa table avec son long coton-tige dans le nez, mais les enseignants sont perplexes. Que faire s'il y a des élèves positifs? Comment meubler pendant les 20 minutes d'attente du résultat? Il demande à ce que les tests soient plutôt faits à la maison et qu'ils soient sous contrôle des parents. Même réticence du côté du syndicat des proviseurs, le SNPDEN, consulté hier par le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Ok pour servir de base logistique, dit le syndicat, s'il faut entreposer des autotests, mais hors de question de demander aux enseignants d'encadrer ça. Un chef d'établissement nous glisse, un bon tuto sur YouTube sera plus efficace qu'un agrégé d'espagnol. La question doit être tranchée au niveau interministériel.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Emmanuel Macron présidera une réunion à l'Élysée ce soir autour d'une dizaine de ses ministres pour discuter de la réouverture des terrasses, des bars et des restaurants.
Au Royaume-Uni, celles-ci sont déjà rouvertes depuis le début de la semaine. On vous en parlait dès lundi avec cette liesse dans les rues de Londres. Des Britanniques rassemblés dans les pubs qui profitent d'une bière ou de plusieurs bières d'ailleurs. Des scènes qui préoccupent le gouvernement et les autorités médicales du pays, comme le chef adjoint du comité britannique sur la vaccination et l'immunisation, Anthony Arden.
Je suis inquiet des scènes qu'on a vues à Londres, de gens qui profitent de l'extérieur, des pubs, dans des endroits bondés, parce que bien sûr, ça va augmenter le taux d'infection. À chaque fois qu'on déconfine, ça augmente le taux d'infection. Et le danger dans ce cas-là est que le virus se transmet beaucoup plus. Et avec les nouveaux variants, comme le variant sud-africain, on n'a vraiment pas envie qu'ils deviennent majoritaires dans ce pays, parce que les vaccins marchent moins bien sur eux. On veut tous retrouver notre vie d'avant, on veut tous s'amuser à nouveau. Mais il faut qu'on soit prudent et qu'on y aille doucement, sinon ce sera retour à la case départ.
Le professeur Anthony Arden, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas. En France, le cap des 100 000 morts du Covid sera bientôt franchi selon les chiffres officiels. Le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter, quasiment 6 000 en ce moment. À noter, ce rappel de plusieurs experts ce matin, il faut absolument aérer. Une consigne aussi simple que capitale pour bloquer la circulation du virus, mais qui n'est toujours pas suffisamment appliquée.
L'autre grand titre ce matin. 2 ans après le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron est attendu sur le chantier de la cathédrale ce matin.
En présence notamment de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Et au vu de l'actualité, Louis Dragnel, c'est autant un enjeu symbolique que politique pour le président.
Absolument. Alors que la France franchit la barre des 100 000 morts du coronavirus, Emmanuel Macron cherche à tout prix à redonner de l'espoir. Et quoi de mieux que la restauration de Notre-Dame de Paris pour célébrer la grandeur de la France? Le chef de l'État profitera donc de ce déplacement pour remercier tous ceux qui ont sauvé la cathédrale des flammes, que ce soit les prêtres ou bien sûr les pompiers, et aussi tous les artisans qui travaillent d'arrache-pied pour reconstruire la charpente, les voûtes, les orgues, les vitraux, ainsi que les 340 000 donateurs. Mais la politique n'est jamais loin et Emmanuel Macron, fortement critiqué dans sa gestion de la crise sanitaire, a l'intention de saluer l'esprit de résilience de la France à travers la résurrection de Notre-Dame. Un esprit de résilience s'inscrivant dans une tradition millénaire et une détermination française qui permettront demain de sublimer le chef-d'œuvre abîmé par le feu. Autant de parallèles avec la crise sanitaire et de messages subliminaux envoyés par Emmanuel Macron exactement au moment où il s'apprête à donner un horizon de réouverture des lieux publics et donc de restauration à venir du pays.
Louis de Ragnels du service politique d'Europe 1.
Et le recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet, qui accueillera le chef de l'État tout à l'heure à Notre-Dame, sera mon invité à 6h40. Pour l'heure, il est 6h05 sur Europe 1. L'Assemblée nationale a déposé plainte pour parjure contre une haute magistrate.
Oui, contre Catherine Chanrenaud, procureure générale de Paris, dans le cadre de l'affaire des Fadettes, en lien avec Nicolas Sarkozy. L'été dernier, la magistrate avait assuré devant une commission ne pas avoir été informée de l'enquête. Vous allez l'entendre avec Guillaume Bié. Or, depuis, des révélations sont intervenues.
Cette enquête n'a jamais fait l'objet d'un suivi par le parquet général qui n'en était pas informé.
C'était le 20 juillet, à l'Assemblée, devant la commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Catherine Chanrenaud, la procureure générale de Paris, assurait alors, je cite, qu'elle n'a jamais eu de remontée sur le contenu et les modalités de cette enquête. La fameuse enquête cachée, comme l'appellent les proches de Nicolas Sarkozy, celle visant à trouver qui aurait informé son avocat qu'ils étaient sur écoute. Or, le magistrat du parquet national financier qui a dirigé cette enquête a écrit en 2019 à Catherine Chanrenaud, notamment pour évoquer cette procédure en détail. Cette lettre, révélée depuis par la presse, laisse entendre aux députés que la procureure générale savait et qu'elle aurait donc menti sous serment. Ce sera à la justice de trancher. Or, sur ce point, en septembre, l'inspection sur le PNF avait justement dénoncé le fait que le parquet général n'avait pas été informé.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Olivier Duhamel a reconnu les faits d'inceste commis sur son beau-fils, Victor Kouchner. Le politologue était entendu par la brigade de protection des mineurs plus de 3 mois après l'ouverture de l'enquête. Olivier Duhamel aurait reconnu les agressions sexuelles, mais pas les viols.
À l'étranger, Joe Biden confirme le retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre.
Oui, soit pour le 20e anniversaire des attentats du World Trade Center. C'est justement ce qui avait provoqué l'intervention des États-Unis. Le président américain qui exhorte également les talibans à tenir leur engagement antiterroriste.
Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Pour les troupes américaines, il est temps de rentrer à la maison. Je suis maintenant le 4e président à gérer la présence de nos troupes en Afghanistan. Je ne transmettrai pas cette responsabilité à un 5e. Nous sommes partis en guerre avec des objectifs clairs, nous les avons atteints. Ben Laden est mort, Al-Qaïda a été neutralisé en Afghanistan. Nous commencerons ce retrait final le 1er mai et nous aurons quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire des odieux attentats du 11 septembre.
Et dans la foulée de cette annonce, les pays membres de l'OTAN ont annoncé qu'ils commenceraient d'ici le 1er mai un retrait ordonné des forces engagées en Afghanistan.
Il est l'un des escrocs les plus connus de l'histoire. Bernard Madoff est mort en prison hier à 82 ans.
Alors qu'il purgeait une peine de 150 ans, il était l'auteur d'un montage qui consistait à payer les intérêts promis avec les fonds de ceux qui investissaient. Montage qui s'était effondré avec la crise de 2008. Alors 13 ans après, Emmanuel Dutheil, les victimes ont-elles été indemnisées ?
Alors, Bernard Madoff a escroqué des grands noms comme Steven Spielberg, John Malkovich ou encore la fondation Elie Wiesel pour l'humanité. Des grands noms et beaucoup d'anonymes fascinés par les rendements élevés et surtout très réguliers qu'il promettait. Près de 40 000 épargnants éparpillés partout dans le monde ont lancé des procédures et environ 70% d'entre eux ont réussi à récupérer une bonne partie de leur mise. Ceux qui avaient fait de gros bénéfices ou de bonnes affaires avec Bernard Madoff ont en effet dû rembourser pour payer ensuite les pertes des autres. Mais les clients français ont été moins bien dédommagés, selon l'avocat Emmanuel Asmar, très impliqué dans ce dossier.
Les clients américains ont été mieux et plus rapidement indemnisés parce qu'elles sont clientes directes sur le territoire américain de la société de Bernard Madoff. C'était beaucoup plus simple d'établir leurs créances.
Les victimes françaises ont réussi à récupérer en moyenne entre 25 et 50% de leurs créances, mais les investigations ne sont toujours pas terminées et les victimes peuvent encore espérer recevoir des dédommagements.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et puis c'est une énième conséquence de la crise sanitaire en France. Pour la deuxième année consécutive, les fêtes de Bayonne n'auront pas lieu. Impossible de les organiser tant que l'immunité collective n'est pas garantie, déplore le maire de la ville.
Oui, effectivement, la distanciation est compliqué
un
à tenir
compliqué à respecter,
dans ces fêtes au Pays Basque. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h10.